me to the moon, na-na-na-na, among the stars. Salut Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile.
Hey, comment ça va?
Ça va comme un gars qui est un peu jaloux des astronautes ces temps-ci.
D'être aussi serré dans une petite capsule ne t'intimide point.
Ouais, ben toi, t'es un gars qui aime bien la vitesse dans des endroits où c'est possible d'en faire, donc sur des pistes de course. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime bien la vitesse dans des endroits où c'est possible de le faire dans des pistes de course. Mais eux autres, ils vont à 50 000 km/h dans les airs, là. Quelle belle machine!
Ah, ça va vite en tabarouette. Puis moi, j'aimerais bien retrouver le rover sur la Lune, là, ce véhicule mythique avec lequel on pourrait faire un essai quand même intéressant un jour, qui sait.
Ben oui, mais c'est juste hallucinant. Là. Moi, j'ai suivi ça toute la fin de semaine. Aujourd'hui, ben, j'avais du boulot, fait que j'ai un peu moins suivi ça. Mais tu sais, j'ai entendu les astronautes donner leur première version de... Qu'est-ce qu'il y a l'autre côté de la Lune qu'on n'a jamais exploré? Et il parlait du Terminator. Là. Terminator, c'est un langage qui est un peu plus d'astronomie, mais le Terminator, c'est la ligne entre la noirceur et la lumière qui se déplace. C'est pas une ligne qui est définie, là, c'est une ligne qui se déplace tout dépendant de où est-ce qu'est la lumière. Et de voir que les astronautes ont été de ce côté-là, pour la première fois, je trouve ça incroyable.
Donc, tu es en train de me dire que même dans le film des Transformers qui nous révèle quelque chose de caché sur la Lune, il n'y a rien. Là. C'est ça que tu me dis.
Ben, techniquement, il n'y a rien, mais je ne suis pas dans capsule, Mathieu. Hein? On ne sait pas. C'est peut-être des gens qui sont payés pour nous dire ça.
OK. Rappelons Fox Mulder et Scully des X-Files. Je crois qu'on va en avoir besoin.
Oui, c'est ça. Puis en fin de semaine, j'ai mis une photo de la planète Terre prise par un astronaute à l'intérieur de la mission Artemis. Et j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'il y a encore des gens qui disent qu'on n'a jamais été sur la Lune et que tout ça, c'est hollywoodien ce qu'on est en train d'assister, là.
Ben, je te confirme qu'on a un point en commun, parce que moi-même, effectivement, j'ai mis une photo aussi, tu sais, directement du site de la NASA, où est-ce qu'on voyait vraiment une belle photo de la Lune ronde, et il y a effectivement des gens qui ont ri, mais sans explication. C'est sûr qu'ils sont pas très nombreux, mais j'attends encore l'explication, mais souvent, ça demeure sans réponse.
Ouais, c'est ça. Ben, il y a des gens qui se chicanent, tout comme dans le merveilleux monde de l'automobile. Il y a des gars de troc qui ont la même marque de troc pendant 50 ans, puis ils s'ostinent avec les autres gars qui ont la même marque de troc, qui n'est pas la même que la leur depuis 50 ans. Puis là, ils s'envoient des photos d'un troc, mettons un Ram qui est en panne, puis là, ils se trouvent bien drôles.
Ben, c'est comme aujourd'hui, le fameux conflit des véhicules électriques contre les véhicules à motorisation régulière. Ça aussi, ça fait partie d'une part de conflit un peu actualisé et qui ne cessera de faire couler des écrits sur les réseaux sociaux ou encore des échanges très épicés, je te le confirme.
Ouais, et là, il y a des gens qui sont propriétaires de véhicules électriques qui sont très heureux de nous dire qu'on devrait tous nous convertir, toute la gang, aux véhicules électriques parce qu'eux autres, la montée du prix de l'essence, ça les touche pas. En fait, c'est de la méconnaissance, là, parce que tout ce qui vous entoure, soit dit en passant, a été amené par du pétrole, par des camionneurs et des camionneuses qui travaillent extrêmement fort. Tous les produits que vous utilisez au quotidien, je dis pas c'est 100%, mais il y a un bon pourcentage qui a été fait à base de pétrole. Tout va augmenter autour de vous autres. Fait que c'est pas tout d'avoir un véhicule électrique, là. Vous pouvez sauver quelques sous, effectivement, mais sachez que vous allez être impacté aussi au niveau de l'économie.
Ben oui, totalement, ça touche le pouvoir d'achat de tout le monde. Même si tu n'as pas une voiture diesel en tant que telle, tu paies plus pour consommer. Et on a juste à penser, voire même à la construction et les services, que ce soit des camions de chantier, la livraison, du déneigement, petit clin d'œil aux services municipaux. Les bananes du Costco n'apparaissent pas transportées en véhicule électrique pour l'instant, à moins que je me trompe, là, mais d'après moi, ça ne s'est pas livré en Tesla semi là, pour l'instant. Donc, automatiquement, on se ramasse à payer et le pouvoir d'achat de tout le monde est vraiment impacté, surtout au niveau de cette consommation-là.
All right, passons au sujet de la soirée. Je vous rappelle qu'on est avec Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile. Question auto, car question sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez pouvoir le retrouver sans aucun problème. On parle d'un essai récent que tu as fait, la fameuse Nissan Sentra, qui est la dernière voiture chez Nissan.
Et oui, écoute, quand on a passé sur le site de Nissan dernièrement, on s'est rendu compte qu'on a laissé la Versa affichée. Cependant, dans la section voiture, il y en a seulement deux, elle et la Sentra. Et si on marque un chiffre bien important, c'est que c'est marqué 2025 en avant de la Versa. Aux dernières nouvelles, on est pas mal rendu en 2026, hein. Ça veut dire qu'il y en a encore quelques-unes en concession qui traînent, peut-être qui n'ont pas été vendues. Et à partir de là, on sait que Nissan avait dit que c'était terminé pour la Versa. Donc, il reste vraiment seulement la Sentra. Et est-ce que la Sentra est une mauvaise voiture? La réponse, c'est non. Et quand on a pris place à bord cette semaine, moi puis mon collaborateur, on s'est dit, tabarouette, ça fait combien de temps qu'on a essayé une voiture? Puis je te dis, il a vraiment fallu qu'on y réfléchisse, car ça faisait très, très longtemps. L'omniprésence des véhicules sport utilitaires est agressif dans le marché et on se rend compte que des voitures abordables, des voitures qui, tu sais, dans le temps, on pouvait payer dans la barre des 14 999 $, hein. Rappelle-toi, on reparle tout le temps de nos vieilles années, toi et moi. Ben, on se rend compte facilement aujourd'hui qu'il n'y a plus grand véhicule qui sont sous la barre vraiment de 30 000 $.
Ben,
Un Corolla.
souvenons-nous de la merveilleuse mode des Hyundai accent grise à 9 999. 9 999!
Ah oui, exactement. On n'oublie pas la Mitsubishi Mirage aussi, qui avait fait comme
Aussi.
un genre de concours au travers tout ça.
Mais les Hyundai accent grise, là, je ne sais pas, tous les étudiants avaient ce véhicule-là. Puis là, je me disais, mais mettons que tu es un voleur, là, tu vas faire une banque, là. Tu as juste à te sauver de la banque avec un Hyundai accent gris, puis la police te retrouvera jamais, là.
Effectivement, ça peut être une manière de passer inaperçu. Prends la blanche, tu peux être sûr que tu vas être correct dans le temps aussi, là. Il y avait tellement des voitures comme ça n'avait pas de bon sens. Mais même du côté de Nissan, quand tu vas souvent sur le site web d'un manufacturier, tu remarqueras qu'il te pousse énormément de véhicules sport utilitaire en premier, plutôt que t'amener dans la section voiture où est-ce que c'est moins cher. Et quand on parle de prix, justement, là, mettons ça tout de suite de côté, un prix PDSF de départ pour une Nissan Sentra, ça part aux alentours de 28 000 $. Mais c'est une version S de base. C'est là qu'on a essayé. Nous, c'était vraiment la version SR Premium qui a l'air beaucoup plus sportive. Mais je te le dis tout de suite, ne te crée pas d'attente avec ce look sportif-là, car c'est vraiment pas une puissance accrue lorsque tu vas dépenser plus.
Ah non.
Au contraire, on a fait vraiment un très bel emballage avec la Sentra. Quand tu le regardes, là, le coup de crayon, il est quand même réussi. On suit la gamme des designs classiques qu'on nous présente au travers de l'ensemble des modèles Nissan. La version SR, lorsqu'on va arriver vraiment là, dans la version celle-ci ou Premium, là, on voit qu'on a mis un emphase sur le côté deux tons du véhicule avec lequel ça donne un esprit un peu plus sportif. Au niveau de la calandre en avant, le design aussi, et on rajoute l'aileron arrière, voire même au niveau de l'échappement, ça a l'air un peu surdimensionné. Mais sous le capot, on a fait un Nissan classique. C'est quoi faire un Nissan classique? C'est faire que la mécanique reste pas mal standard. On ne touche pas à celle-ci, mais on crée un emballage et un intérieur qui est beaucoup plus adapté. Donc, on est encore pris avec la même motorisation qui va seulement nous donner là, aux alentours de 149 chevaux. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise mécanique. La problématique, elle était surtout au niveau de Nissan, c'était au niveau de la fameuse CVT, qui n'a vraiment pas eu une bonne réputation au travers du temps. Il y avait un paquet de garagistes aussi qui s'en tenaient loin, qui ne voulaient même pas la réparer. Et on a connu justement une mauvaise réputation des CVT, probablement à cause de ce manufacturier-là. Mais si on met tout ça de côté et on prend place à bord, on se rend compte qu'on a quand même une bonne petite voiture avec un style intérieur très à jour. Double écran de 12,3 pouces, un système multimédia qui est basé sur Android, qui est extrêmement rapide. On intègre encore une fois aussi tout ce qui est la panoplie d'Apple CarPlay, Android Auto, et on se rend compte qu'on a fait attention à l'ensemble des matériaux à l'intérieur et même on a gardé un bloc physique des instruments pour la climatisation. On n'a pas repris les bonnes vieilles roulettes, là, bien que j'aurais voulu de mon bord. On a vraiment repris des boutons un peu tactiles, si on veut. Et ceux-ci, ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus long des fois monter la température avec tout ça, mais au moins on salue l'effort d'avoir fait cesser et de conserver ça. Et pour le reste, à l'intérieur, on n'a pas grossi vraiment en dimension par rapport à l'ancien modèle, à peine quelques centimètres ici et là. Mais on a vraiment travaillé plus sur l'insonorité, l'ajustement au niveau de suspension. Et on a ajouté un petit mode dynamique qui nous permet de passer à standard, éco, voire même sport. Mais tu vas t'entendre avec moi que 149 chevaux, ce n'est pas sport. C'est juste pour donner un petit peu plus de feedback au travers du volant et de pousser cette CVT-là à se créer des rapports simulés. Des fois, les gens aiment, des fois, les gens aiment moins. Mais on a quand même un package très intéressant pour la Sentra qui, ma foi, se démarque correct du lot, mais pas assez quand on regarde la compétition qui offre des versions hybrides, traction intégrale, voire même hatchback. Mais je te ramène à la question de base, Marceau. Est-ce qu'on pousse le prix des véhicules trop loin avec trop d'équipements, alors que des fois, on devrait juste revenir à la base de ce que c'était une Nissan Sentra? Je pense que Nissan l'ont compris, ils se maintiennent là sans jouer une carte où est-ce qu'on se promène à gauche, pas à droite. Mais d'un autre côté, Nissan est un des manufacturiers les plus impactés par les fameux tarifs de notre collègue de l'autre côté de la ligne, qui fait que lorsque c'est le temps d'importer des véhicules du côté du sol nord-américain, ben ça paye la totale, comme on dit.
Ben, puis, tu sais, j'en rencontre des gens. Puis, moi, je suis pas comme ça, là. Moi, j'aime bien avoir un certain confort avec mon véhicule. Je fais énormément de routes, je fais énormément de kilométrages par année parce que, bon, mon cœur est avec mes enfants, puis ils habitent pas dans la même ville que moi. Ce qui fait en sorte que quand je veux les voir, il faut que je me déplace. Puis, souvent, je les ramène chez nous, puis après ça, il faut que j'aille y retourner. C'est un peu comme monsieur et madame tout le monde, sauf que c'est à une bonne distance, là. Je te dirais que je fais à peu près au-dessus de 30, 35 000 kilomètres par année, ce qui est énorme à mes yeux, à moi. Pour certains, tu sais, si t'es un camionneur, t'entends 25 000, 30 000 ou 35 000 kilomètres par année, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, ça l'est. Mais puis j'ai besoin de confort. Mais pour des gens qui veulent juste avoir une petite voiture, quatre pneus, un petit moteur, juste se déplacer en ville, ils n'ont pas besoin d'avoir un char à 80 000, 100 000.
Ben non, tu as totalement raison. Puis, tu sais, dans ta réflexion, toi, tu l'as dit, toi, tu fais plus de kilométrage, puis voire même, tu es au-dessus du kilométrage moyen. Oublie pas que je regarde à la télévision de ce temps-ci, puis je vois des publicités qui nous vendent des prix incroyables au niveau de la location de certains Jeeps, là, avec « Regarde ça, mon homme! » En réalité, quand tu regardes ça, mon homme, en bas, là, les petites lettres, tu te rends compte que c'est marqué une location à 12 000 kilomètres par année. Tu vas pas loin avec ça. Donc, si tu es une personne qui a besoin de se déplacer au plus faible coût possible, la Sentra reste extrêmement intéressante. Et c'est sûr que là, ça mène la grande question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un véhicule sport utilitaire? Puis là, je suis en train de brûler le punch d'une vidéo qui s'en vient. Bien, la réponse, c'est souvent non. Et on remarque cependant que les manufacturiers, lorsqu'on va commencer à pousser des véhicules sport utilitaire, on passe rapidement le cap du 40 000 $ aujourd'hui, là. Donc, ça, tu es avec un modèle de base totalement, puis paf, ça vient de t'exploser vraiment au visage. Et là, quand je parle de ces prix-là, je parle quand même d'un véhicule qui va être de dimension compacte. Je ne parle pas du sous-compact qui devient un peu difficile à loger tout ce qu'on a de besoin pour une famille. Si on fait un parallèle, un Nissan Rogue 2026 va être quasiment 10 500 $ de plus PDSF qu'un Nissan Sentra. Et je parle encore une fois d'un véhicule de base, là. Donc, ça grimpe rapidement au niveau des chiffres, là.
Exact, exact. Et est-ce que tu y crois, toi, l'arrivée des véhicules chinois au Canada qui va faire en sorte que les constructeurs en Amérique du Nord n'auront pas le choix de s'ajuster?
Il faut faire attention à une chose, et ça le fait couler beaucoup d'encre dernièrement. On parle de la fameuse compagnie BYD, là, et ce qui s'est promené sur Internet, c'est vraiment un affichage où est-ce qu'on disait qu'on allait avoir des véhicules à des prix vraiment, là, sous la barre des 30 000 $ quasiment, ou tout juste au-dessus, pour justement démontrer à quel point tout ce qui est la marque chinoise est très agressive côté prix. Est-ce qu'ils le sont? La réponse, c'est oui, totalement. Mais est-ce qu'on se fait pas des fausses attentes avec les rumeurs qui circulent? La réponse, c'est oui. Selon un récent rapport, le constructeur, lui, planifie l'ouverture d'environ 20 concessionnaires à travers le pays, avec un déploiement là, qui commencerait là, du côté de Toronto, avant de s'étendre à Vancouver, Calgary, Montréal, et ainsi de suite. Il y a même une firme ontarienne qui a été mandatée pour identifier les emplacements stratégiques pour BYD. Un autre signe que le projet est concret, c'est qu'on a déjà enregistré des installations de production auprès de Transport Canada, Ça, c'est vraiment une étape essentielle pour importer des véhicules chinois à l'intérieur ici. Par contre, les prix choquent. Ce qu'on a vu sur Facebook, moi-même, écoute, il y avait des affichages qui parlaient de 17 000 $ canadiens. Je vous le dis tout de suite, là, éteignez vos cierges que vous avez allumés à la basilique, là, car c'est faux. Des estimations réalistes qui nous annoncent que ça va être beaucoup plus élevé de ce qu'on voit dans d'autres marchés. On parle, écoute, on parlait même d'un 28 000 $ pour le fameux Dolphin de BYD. Oubliez ça. Donc, pendant ce temps, il ne faut pas oublier que l'autre compétition, elle s'organise aussi. Il y a Geely qui prépare le terrain avec la marque Zeekr. Il y a d'autres joueurs comme Chery qui regardent aussi le marché canadien au travers de tout ça. Donc, il y a quand même eu une réduction des tarifs chinois dernièrement. Le Canada allait limiter les importations à 49 000 la première année, mais il ne faut pas oublier que ça permet une croissance assez exponentielle au fur et à mesure que les années vont avancer. Donc, il y a des discussions pour une production locale, mais contrairement à bien d'autres, les Chinois veulent souvent garder le contrôle à 100%. Ça se précise, mais il ne faut pas s'attendre à un prix ultra low cost du jour au lendemain. Et je dois t'avouer que quand on est allé au Salon de New York, il y avait plusieurs conférenciers aussi. On s'est même assis avec M. Flamand du côté de Hyundai Canada. Puis la question revient souvent. Est-ce qu'il y a de la place pour ce genre de véhicule-là? Est-ce que ça va créer un impact? Probablement, mais est-ce que ça va être à la hauteur des prix qu'on s'attend? Je ne peux cependant te garantir le tout, puis je ne voudrais pas non plus te vendre un rêve. Et regarde, encore une fois, on peut faire le parallèle avec la Sentra tantôt. Là. Toute la technologie qui est à l'intérieur de ce véhicule-là, tout le design, tous les matériaux, tout le système multimédia, le système de son, et ainsi de suite. Tu sais, on est loin du deux haut-parleurs qu'on avait dans le temps avec un radio-cassette et un seul miroir d'un côté. On est rendu dans un monde où est-ce que l'Américain moyen, là, puis là, en passant, j'inclus les Canadiens, on ne veut plus de véhicules moins chers, accessibles, voitures. Pourquoi? Ah, quand je viens pour prendre place à bord, mon dos, je trouve ça trop proche de la Terre, alors qu'en réalité, c'est quoi ton but? Est-ce que ton but, c'est de te déplacer ou vraiment d'avoir un confort ultime pour un véhicule que tu laisses 80% du temps dans la cour? Tu sais, il faut se reposer des questions aussi. Il faut se reposer des questions à savoir pourquoi on est aussi gourmand de véhicules pleinement équipés, sport utilitaire, traction intégrale, hybride, tout un tralala qui, des fois, on en a très peu besoin pour le peu de kilométrage qu'on fait. Bien entendu, je ne t'inclus pas dans mon équation. Là. Toi, tu es hors de norme, là, comme on dit.
Non, mais tu sais, il y a des véhicules maintenant qu'il faut que tu achètes des applications. Puis là, je vais payer 300$ de plus, puis je vais avoir accès assis à l'intérieur de mon véhicule, alors que l'équipement est déjà là. C'est quand même assez particulier.
Bien, je vais te donner un exemple. Je crois que j'ai vu ça sur un groupe de Chevrolet Equinox dernièrement, où est-ce qu'il y avait des gens qui montraient une image dans lequel on voyait que Google Maps n'était plus accessible à moins de renouveler le forfait OnStar. Donc là, tu te poses des questions à savoir, on est-tu vraiment rendu à ne plus rendre les applications intégrées à ton véhicule facilement accessibles pendant une période de temps, juste pour après te vendre un abonnement? Rappelle-toi qu'il y avait beaucoup de manufacturiers à un moment donné qui avaient parlé aussi de rendre, voire même les sièges chauffants.
Par abonnement.
Oui, exactement. Voire même le démarreur à distance aussi. Ouais. C'est très, très beau avoir le démarreur à distance intégré sur ton cellulaire. Mais bien souvent, il y a certains manufacturiers qui vont te pousser un abonnement aussi qui vient avec ça après les trois premières années d'utilisation où est-ce qu'on a créé une facilité puis voire même une certaine dépendance. Donc, je te le dis tout de suite, des fois, là, quand on rajoute tous les abonnements, là, d'ailleurs, ma carte de crédit m'a envoyé un rappel sur tout ce que j'ai comme abonnement mensuel, tu sais, que ce soit le Netflix, le Disney Plus de ce monde, des abonnements, voire même au véhicule, voire même notre dépendance au cellulaire, je vais t'avouer que ça chiffre assez vite quand on se laisse aller dans ce monde.
Écoute, puis je suis en train de te parler de quelque chose que je ne connais pas. Là. J'imagine que toi, tu en as entendu parler, mais mon ex-conjointe avait vraiment un véhicule de luxe. Là. Un véhicule que moi, je ne pourrais pas me payer même après 100 ans de salaire. Là. Et pour me donner accès à son véhicule, fallait que je télécharge une application, qu'elle me transfère un droit pour pouvoir faire partir ce véhicule-là avec le téléphone cellulaire. Et de ce que j'ai compris, il fallait que je m'abonne. C'est pas moi qui ai payé, là, mais il fallait que je m'abonne à ce service-là. Écoute, c'est pas une clé physique là, que je m'en vais faire par un ingénieur aérospatial. Là. C'est une application qu'on me transférait avec un code spécial. Puis là, en plus de ça, il fallait que j'ajoute un abonnement à ça pour la clé. Qu'est-ce que c'est ça?
Ben oui, ben c'est quoi concrètement? C'est une clé qui est stockée dans ton téléphone, qui te permet de déverrouiller, verrouiller le véhicule, le démarrer, ouvrir une porte, voire même pour accéder à un bâtiment au travers tout ça. Là. Puis il y a des avantages. C'est sûr que pour le manufacturier, tu n'as plus besoin de clé physique. C'est des accès rapides et sans contact. Ça se partage, bon, relativement facilement. Ça dépend du manufacturier. Encore une fois, ils ont tous leurs produits un peu maison. Et pour certains, c'est une sécurité qui est améliorée au travers de tout ça. Et de plus en plus de compagnies, de constructeurs automobiles vont l'utiliser comme BMW, Tesla, voire même Toyota, Volvo, Polestar, et ainsi de suite. C'est sûr que c'est pas encore compatible avec toutes les voitures. Ça nécessite encore une fois que tu gardes un téléphone récent, donc un forfait de données, une application mise à jour, un téléphone récent, et oublie pas, là je sais pas si c'est encore ton iPhone 5, là, mais quand tu dépasses, mettons, une certaine version, tant du téléphone que du logiciel, un jour, ça peut ne plus se mettre à jour. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es rendu que tu n'as plus de clé. C'est sûr qu'il va toujours quand même rester une certaine clé physique qu'on appelle, mais encore là, ça nous crée une dépendance aux applications au travers de tout ça, mais c'est de plus en plus commun. Et n'oublie pas une chose aussi, pour que ça marche, ton véhicule doit communiquer avec l'Internet. S'il communique avec l'Internet, il communique. Ah, Marceau a démarré le véhicule, il est parti à tel endroit. Je te confirme que ça t'envoie une clé, elle peut suivre point par point où est-ce que tu vas. Donc, fais attention si tu vas au bureau non officiel, surtout en dehors des heures régulières.
Ah, voilà qui explique tout, Hey, Mathieu, t'en as parlé un petit peu tantôt, t'étais au Salon de l'Auto de New York, le show était comment?
Le show était quand même assez incroyable et à jour. Il y a eu plusieurs manufacturiers qui ont quand même volé la vedette et je dois t'avouer que j'ai été un peu surpris de ce que j'ai vu sur place. Si on y va en vrac, il y a eu le lancement du Hyundai Boulder qui a retenu énormément d'attention, une direction qu'on pensait pas qu'Hyundai allait prendre. Le nouveau Kia Seltos, bien entendu, qui arrive sous différentes formes, dont une version comme un peu hors-route qu'on nous a présenté. Il y a eu le lancement du Subaru Getaway, un genre de nom bizarre. J'ai comme l'impression de revenir dans le temps des années 90 avec Real McCoy, puis de jouer un peu cette musique-là avec ces noms-là. Après ça, il y avait eu le Subaru Forester hybride, le nouveau Volkswagen Atlas, la Kia EV3. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les Coréens ont plus de superficie que n'importe quel Américain au salon de l'auto. Là. Donc, je dois t'avouer que j'ai quand même été assez frappé de ce côté-là. Si on revient sur les lancements, le lancement qui m'a quand même le plus frappé, puis moi, je ne te cacherai pas cependant que nous, l'invitation avait été faite par Hyundai, c'était vraiment le Hyundai Boulder. Et quand on regarde ça, c'est la vidéo qui a été le plus populaire de notre côté là, sur nos médias sociaux. Et c'est pas pour rien, car Hyundai se lance dans un territoire qui est quand même assez agressif, un territoire d'utilisateurs hors route qui est détenu pas mal par les Jeep Wrangler et Ford Bronco de ce monde. Donc, on lance littéralement un véhicule qui est basé sur un châssis échelle, qui est destiné aux amateurs de hors-route, mais il faut faire attention, c'est un concept. Et quand on regarde les éléments clés du concept du Hyundai Boulder, on voit quoi? Le châssis en échelle, qui est un vrai châssis de camion. On voit les pneus de 37 pouces tout de suite en partant, qui sont montés sur le véhicule, qui donnent un côté beaucoup plus agressif. On voit des exercices de style qui, présentement, sont sous forme de véhicules sport-utilitaires, mais il est clair que la direction aussi que Hyundai va prendre, lorsqu'on parle d'un châssis à échelle, c'est pas juste de faire un véhicule avec celui-ci, c'est vraiment d'avoir une panoplie d'autres véhicules disponibles qui vont être basés là-dessus. Donc, on parle probablement d'une direction camion, soit camionnette compacte ou encore, voire même camionnette pleine grandeur qui serait possible avec ce genre de châssis-là. Et je dois t'avouer que ça l'a surpris tout le monde. C'est fou. Puis, il y avait même, en parallèle de nous, là, c'est toujours intéressant, je l'avais pas reconnu du premier coup d'œil, Il y avait même la fille à Ken Block qui était là dans l'assistance pour regarder ce lancement-là. Il y avait une panoplie d'influenceurs qui étaient reliés aussi au monde du camion. Et c'était l'attraction majeure qui a fait que tout le monde se plaçait autour de ce véhicule-là. Il est massif, il est énorme. Et au niveau du design de style, on s'entend, là, tu sais, quand on regarde certains éléments, quand on se penche en dessous du véhicule, c'est pas toute la production à 100%, là. Tu sais, on s'entend quand on regardait le différentiel en arrière. Est-ce que ça va être vraiment ça qu'on va avoir? Ce qu'il faut déduire, c'est qu'il y a de la place pour mettre quelque chose de gros, quelque chose de robuste. Et lorsqu'on regardait un peu les ébauches aussi à l'intérieur, mais on ne pouvait pas s'y rendre, mais on avait quand même ce qu'on appelait une genre de réflexion au niveau de la technologie, l'intégration centrée sur le conducteur, mais non seulement la personnalisation des cadrans à l'intérieur, voire même de déplacer un bloc d'instruments du côté conducteur jusqu'au côté passager qui va comme agir un peu à titre de chien de garde peut-être dans ta piste d'aventure qui serait très agressive. Je dois avouer que ça mérite une bonne réflexion et Hyundai ne fait pas les choses à moitié. On a marqué dans le communiqué de presse et non seulement dans l'annonce du Salon de l'Auto de New York que c'est direct en 2030 qu'on va avoir quelque chose de relié à ceci. Donc, concept, oui, mais encore une fois, on est très près, je crois, de la production de ce véhicule-là qui va nous permettre de rêver sur des sentiers d'aventure. Puis ça nous démontre le sérieux de Hyundai. Puis, encore une fois, le côté châssis, là, un vrai châssis échelle de camion, là, un vrai frame de camion et pas basé sur un genre de monocoque qu'on appelle sport utilitaire. Ça permet de démontrer le sérieux de la robustesse, mais non seulement on sait qu'Hyundai aussi là, sont pas mal pris du côté acier, ils ont leur propre aciérie pour construire le tout. Donc, on est vraiment bien parti et c'est ça qui m'a marqué du côté de New York.
Ouais, je trouve que c'est vraiment un beau véhicule. Il pourrait se détailler combien, hein?
Ah, j'ai aucune idée là, présentement. C'est quand même assez tôt pour dire, mais ce genre de véhicule-là, tu le sais comme moi, que ce n'est pas donné. Regarde le prix des Jeep Wrangler, à quoi que ça démarre. Puis, écoute, il n'y a pas rien en bas quasiment de 50 000 $ là. On veut pas un deux portes, on veut du quatre portes, on veut de la fonctionnalité, on veut retirer le toit, on veut avoir du fun, on veut que ce soit capable en mode hors-route. Ben, il n'est pas rare de voir ces véhicules-là qui vont frôler avec le 70 et 80 000 $. C'est la même affaire pour le Bronco. Meilleur temps de l'acheter, c'est quand le prix apparaît au niveau des fameuses publicités là, qui dit le prix employé. Nous, de notre côté, quand on a fait un move, ça a été avec ça en location. C'était le seul moyen d'avoir un paiement mensuel qui avait de l'allure avec un véhicule comme ça. Donc, on verra un peu ce qui va être au niveau des offres. Mais tu le sais comme moi, les Coréens ont tendance à offrir beaucoup pour un excellent prix. Tu sais, écoute, remonte à ça là, à plusieurs années, là, au-dessus d'une quarantaine d'années. Bon, t'arrivais avec... ça remonte même avant ça. T'arrivais avec le poney, il n'y avait pas grande excitation. Hein? C'était pas un gros « wow ». Hein? Mais aujourd'hui, d'avoir cheminé du poney aux palissades, je dois t'avouer que les Coréens ont fait des moves majeurs. Et trop souvent, je vois encore des gens là, qui ont tendance à ne pas leur donner la vie facile par rapport à tout ça. Et « ah non, la fiabilité n'est pas là, c'est ça ». Je t'annonce que la fiabilité est en baisse pour tous les manufacturiers. Là. Ça, c'est on va se dire des vraies choses. C'est l'électronique hein, qui cause beaucoup ces choses-là. Mais cependant, je vais leur donner une chose. Eux autres, ils se sont améliorés de A à Z. Donc, on va leur donner le bénéfice du doute quand on va lancer ce véhicule-là. Parce que moi, je l'ai dit là, au président de Hyundai Canada, aux dernières nouvelles, il n'y a pas grand piste hors route en Corée. Donc, il n'y a pas grand piste d'essai non plus. Officiel pour aller vraiment tester des véhicules comme ça. Mais s'ils le font sérieusement, je crois que ça peut être très intéressant à rendre un nouveau joueur dans le marché qui va être compétitif. Mais difficile de ne pas faire un clin d'œil à Land Rover, Bronco Jeep, je t'en ai parlé. Mais oublie pas FJ Cruiser, Forerunner, Land Cruiser. On est dans un monde où est-ce que l'aventure elle est extrêmement populaire, puis Subaru peut nous le confirmer aussi.
Oui, la Subaru Évasion ou Fuite, la Subaru Getaway. Est-ce que c'est pour une escapade romantique ou encore une fuite rapide là, parce que ta conjointe n'est pas contente?
Hey, j'ai la misère un peu avec la direction qui est en train de prendre Subaru.
Ouais.
Puis, c'est avec les noms. L'ensemble des noms qu'on est en train de donner dernièrement à leur véhicule, je dois t'avouer que encore une fois, je suis comme sidéré. On est comme rendu dans un monde d'évasion, de bateaux pirates. On est rendu avec le Uncharted. Puis en passant, là, je suis en mode français. Là. Et on est rendu avec le Trail Seeker. on est rendu avec le Getaway. Donc, Solterra peut s'embarquer quand même un peu là-dedans. On s'éloigne un peu des noms cool comme on avait au niveau du WRX, Outback, Impreza, Crosstrek. Donc, je crois qu'on est en train de créer un petit monde parallèle, si je ne peux dire. L'autre chose aussi qui est notable, c'est qu'on continue l'entente avec Toyota et ça paraît énormément. Donc, on utilise vraiment ce véhicule-là, qui est comme une version presque copie conforme, presque à 100% du Toyota Highlander électrifié au travers de tout ça. La seule chose qui va arriver, c'est qu'on va donner un peu plus de puissance dans le modèle Getaway, qui va développer jusqu'à 420 chevaux. Donc, c'est une performance qui est vraiment wow par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que ça va être le véhicule le plus rapide que Subaru aura jamais eu, incluant la fameuse Subaru STI. On nous promet une accélération de 0 à 100 en moins de 5 secondes pour un véhicule de ce gabarit-là, et non seulement 3 rangées, et qui est capable quand même de faire une capacité de remorquage maximum, là, on parle aux alentours de 3500 livres au travers de tout ça. Encore une fois, est-ce que c'est un pari audacieux de mettre ça 100% électrique? Je pense que là, avec le monde de l'essence qui coûte extrêmement cher, nous, on est très influençables par ça. Donc, ça risque quand même d'avoir un succès. L'autre chose que j'ai de la misère, c'est les fameuses poignées. Donc, tu regardais la manière d'ouvrir le véhicule avec, tu rentres ta main à l'intérieur, puis tu dois tout simplement appuyer sur un bouton. Tu ne tires plus une poignée comme auparavant. Tu sais, des fois, on complique les choses avec l'électronique, ce qui va probablement glacer avec le temps, ce qui va être compliqué. Ben, tu en as un bel exemple présentement. Et on va être capable de faire une recharge rapide en courant continu avec avec justement de l'énergie dans cette batterie-là de grande capacité de 10 à 80% en 30 minutes. On parle d'une autonomie estimée de plus de 480 km.
Wow.
Bien entendu, on alimente deux moteurs de la transmission intégrale symétrique là, pour garder le petit côté hors route au travers de tout ça. Et là, ça devient une guerre à savoir qui va nous en offrir le mieux. Est-ce que ça va être le Toyota Highlander électrique ou encore celui-là? Je dois t'avouer que quand tu regardes le visuel, on dirait que c'est une grosse Outback comme du passé. Il y a vraiment la partie frontale où est-ce qu'on a fait un bloc de plastique complet avec le logo. Et on sait que le temps nous a dit, surtout au niveau des Coréens, que dès qu'on a un impact dans ces choses-là, ça coûte très, très cher à remplacer. On aurait peut-être pu se garder une petite calandre classique, habituelle au travers de tout ça. Beaucoup de dimensions au niveau de l'écran, encore une fois, hein, le combiné d'instruments numériques 12,3 pouces, l'écran tactile de 14 pouces de série. Il va y avoir une console centrale qui va être flottante, là, qui offre un grand espace de rangement en dessous, deux chargeurs de téléphone sans fil sur le dessus qu'on avait vu à l'intérieur du Solterra apparaître. Donc, il n'y a plus de chicane vraiment pour le chargeur sans fil, moins besoin de câble au travers tout ça. Et on va avoir vraiment des jantes de 19 ou 20 pouces, les logos qui sont illuminés au travers tout ça. Donc, est-ce que le Getaway va vraiment plaire à tout le monde? On devrait le voir arriver d'ici la fin 2026-2027,
oui.
Oui, exactement.
Puis, parce que moi, je trouve vraiment que le modèle est beau, là. Est-ce qu'il est aussi beau en vrai qu'en photo?
Ça ne m'a pas tant frappé. Ah. J'ai eu plus un petit coup de cœur là, vraiment là, pour le Subaru Forester Wilderness là, avec sa version hybride aussi là, qui était présentée au travers de tout ça. Subaru garde le côté aventurier un peu, si on veut, de tout ça, et c'est la première fois aussi avec le Subaru Forester Wilderness qu'on mettait un badge avec la mention hybride. Donc, on est capable d'aller hors route et vraiment, encore une fois, d'utiliser le mieux au niveau de la consommation d'essence avec un véhicule qui a quand même une bonne garde au sol de 9,3 pouces là, et qui va corriger une de ses problématiques au travers du temps, c'est-à-dire quoi, qui était vraiment un consommateur d'essence un peu plus élevé. Il ne faut pas oublier que Subaru, le badge Wilderness, là, ça fonctionne extrêmement bien pour eux. Ils ont trouvé le créneau qui persuade des acheteurs d'aller les équiper plus. Donc, ça risque d'être intéressant cette fois-ci de le mettre en version hybride. À l'intérieur, c'est sûr qu'on ne retrouve pas une réinvention du modèle du Forester actuel parce qu'on ajoute la mention Wilderness. C'est vraiment plus au niveau de la consommation d'essence qu'on va aller chercher, puis un petit effet de puissance de couple plus puissant que la version non hybride. Mais il ne faut pas oublier que je vous dirais que c'est pas une consommation qui vient amener le tout à avoir une rentabilité très rapide. Allez voir sur Question Auto, là, notre chaîne YouTube, on a fait l'essai dernièrement du Crosstrek hybride. Et je dois vous dire qu'on tombe dans un véhicule sous-compact, dans un créneau de prix de véhicule quand même assez cher, mais qui n'affiche pas assez d'amélioration au compteur par rapport à l'économie d'essence pour se dire « Hey, lancez-vous là-dedans, vous allez en avoir pour votre argent. » C'est beaucoup plus un statement vert ou encore le vouloir d'avoir un petit oomph de plus au niveau du véhicule qui était souvent très conservateur au niveau des modèles de Subaru. Donc, chapeau en passant, leur kiosque est toujours aussi impressionnant à Subaru. On voit qu'on tombe en mode nature. On tombe aussi avec le respect des animaux. Subaru a toujours un genre de petit enclos avec des chiens de compagnie, voire même des chiens d'assistance à l'intérieur qui permettent à tout le monde de venir flatter puis de vivre une expérience. Mais cette année encore plus, même au Salon de l'Auto de New York, Subaru a mis l'emphase sur les parcs, l'aventure, le respect de la nature, que ce soit du plancher jusqu'au plafond, c'était vraiment de toute beauté à voir par rapport au kiosque de Subaru. D'après moi, je leur donnerai le prix du meilleur kiosque au travers de ça, mais je n'irai pas avec les meilleurs lancements cependant.
All right. Hey, rassure-moi, là, j'ai vu un véhicule, le Atlas 2027, là, celui qui était au show à New York où tu as assisté, c'est celui qui était multicouleur, là, comme si c'était un enfant qui l'avait peinturé?
Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui ont des œuvres de bienfaisance. Hein. Donc, ouais. Souvent, on va s'associer avec différentes, disons, au BNL, avec lequel on va faire un retour d'argent. Et que ce soit du côté de Hyundai, on avait un véhicule avec des mains un peu partout du côté du Salon de l'Auto de Québec. Ben, c'est la même affaire qu'on réplique. Et là, on a tendance à faire tout ça. Donc, on laisse les enfants s'amuser un peu, peinturer les véhicules. Et on amène ce véhicule-là de présentation au travers les lancements classiques, au travers de ça.
Mais ça peut être beau. T'achètes ça, ça peut être beau, oui. Pour un jour ou deux. Là, mais tu, je veux dire, c'est multicouleur comme ça, le Atlas.
Non.
Après un an, tu t'écœures.
Ouais, c'est ça. Et si on regarde vraiment les couleurs avec lesquelles on l'a lancé, c'était des couleurs beaucoup plus classiques. Et là... Le nouveau Volkswagen, on a comme repensé entièrement la carrosserie. On a tenté de mettre un intérieur un peu plus haut de gamme au travers de ça. Et du côté de la marque allemande, on a grandement besoin d'aide là, parce que de ce temps-ci, il ne se passait pas grand-chose là, dans les concessions de Volkswagen. Et on espère que cette version-là, plus moderne, va permettre de rester compétitif face aux autres SUV à trois rangées du segment. Donc, un style plus épuré, des lignes plus douces. On a quand même accru la longueur d'environ 2,5 cm. Là. C'est à peine perceptible, tant au niveau de la hauteur, de la largeur, puis de l'empattement là, qui reste identique au travers de tout ça. Ce qui ressort un peu plus, c'est les phares doubles superposés, là, puis l'élégante barre lumineuse là, qui rajoute un peu au travers de tout ça. Puis tu vois, il y a trois couleurs nouvelles là, qui étaient proposées. Une qui est d'une couleur un peu mûre, un vert boréal, puis un gris asco. Ces couleurs-là sont pas mal plus régulières là, si jamais tu veux aller là-dessus. On garde le côté des finitions Comfort Line, Highline, Excel Line aussi au travers de tout ça. Et je dois avouer cependant qu'on touche un petit peu à la motorisation, mais on reste dans le côté 4 cylindres turbo de 2 litres. On accrue la puissance de 13 chevaux là, pour un total de 282. J'aurais aimé qu'on s'amuse un peu plus avec Volkswagen au travers de tout ça. Et on nous a quand même annoncé qu'il allait avoir une version hybride de l'Atlas qui sera proposée lors du restylage là, qu'on appelle demi-carrière là, du véhicule. Donc, ça ne sera pas trop long qu'on risque d'avoir quelque chose genre. On est très conservateur, tant qu'à moi, selon la consommation. On parle aux alentours de 10 à 11 litres au 100 là, pour tout ça. Malheureusement, j'ai hâte de voir si on va le réaliser. Je crois qu'on va être un petit peu loin de ça, mais je vais donner quand même le bénéfice du doute. Et on attaque, comme tout le monde, des intérieurs classiques. Puis, on dirait que je me répète de plus en plus. Mais écoute, cette fois-ci, les versions Highline, puis exact, vont avoir un écran de 15 pouces associé à un système Harman Kardon à 14 haut-parleurs. Donc, plutôt d'y aller dans le 12 pouces, envoyer tout les choses, on s'en va dans le 15, on essaie de faire plus gros là, par rapport à ça. Et on augmente quand même la capacité de la troisième rangée là, avec quelques centimètres supplémentaires. Ces véhicules-là, c'est bien beau de dire qu'ils sont trois rangées, mais souvent, quand on relève la dernière, l'espace cargo devient presque inutilisable. Et il y a d'autres leaders dans le marché présentement là, quand même à ce niveau-là. Mais on salue la mise à jour de Volkswagen, mais beaucoup ont trouvé ça très conservateur quand j'ai regardé là, les différentes mentions sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu'il va rester des travailleurs d'usines dans les usines d'assemblage ou tout ça va être robotisé dans les prochaines années?
Ah, très bonne question. Dans son kiosque, Hyundai avait deux sections réservées à son... on peut l'appeler quasiment un partenaire, mais en même temps, moi, je vois une vision là, de futur. C'est des robots de Boston Dynamics. En fait, il y a deux types de robots dernièrement qu'on a vus à l'intérieur. Il y a le fameux robot Atlas. Ce robot-là, en tant que tel, c'est comme un robot qui ressemble à un humain. Et celui-ci peut aider à des tâches de transport, de maintenance, voire même des tâches particulières au niveau de l'assurance qualité par rapport à une production en usine. Et Hyundai nous a démontré des images très claires qu'on s'en sert de plus en plus, donc le futur est déjà bien réel. Et il y a toujours le fameux robot chien, un peu comme de Boston Dynamics. Celui a quatre pattes, est équipé d'un bras comme sur le dessus. On voyait ces utilisations-là au niveau du salon de l'auto de New York dans lequel on les faisait danser, animer un peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on veut de plus en plus s'en servir aussi, ces robots-là, pour faire, comment dire, garder les gens avec un intérêt. Donc, au niveau de la FIFA, qui s'en vient très bientôt, Hyundai est un partenaire, et on va rendre disponibles les robots Atlas pour divertir la foule, pour garder les jeunes, comment dire, occupés avec intérêt. On va leur faire des démonstrations avec le ballon. Donc, on essaie de mélanger quand même production et amusement. Et moi, je vais être franc, toi, j'ai l'impression d'être dans le film iRobot avec Will Smith. Tu sais, quand à un moment donné, il commençait tout à se révolter. Tu sais, au début, il était tout gentil, tout fin, il jouait avec tout le monde, s'occupait de grand-maman, faisait même la cuisine d'une tarte avec celle-ci. Et quand tu regardes la fin, ben là, qui se bat tout dans un compteur à cause d'une mise à jour globale, c'est fou raide, mais on est vraiment rendu là. Et de voir le robot Atlas pleine grandeur, pleine dimension, avec tous ses équipements de proches, c'est là que tu te rends compte que tu fais « wow, on dirait presque un humain ». Mais en même temps, la compagnie, quand on a discuté avec eux autres, ils veulent pas nécessairement répliquer l'humain, mais ils veulent vraiment construire quelque chose de fort, d'intelligent, qui est conçu pour collaborer avec les humains, pour prendre en charge les tâches les plus exigeantes pour transformer la production automobile.
Petite question, Mathieu Thomassin, comme ça, c'est une question anodine, OK? Le robot de Boston Dynamics, là, est-ce qu'il peut travailler au-delà de 8 heures par jour?
La réponse est oui.
Est-ce que
la batterie est interchangeable, hein?
Ouais. Est-ce qu'il est syndiqué, ce robot-là?
Ben, ça dépend, là. Est-ce qu'il y a une conscience à lui-même? La réponse est non pour l'instant. Okay. Donc, risque de syndicalisation n'est pas fort.
Ouais. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'un être humain de faire des erreurs dues à la fatigue?
La réponse est non. Tout est dans la programmation. Si tu le programmes bien, il va faire bien les choses, mais ça prend quelqu'un pour le programmer, Marceau.
Ouais. Puis là, ben maintenant, un programmeur analyste, là, actuellement, là, lui, il se pose la question à savoir s'il va avoir encore une job demain avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle est déjà capable de s'auto-programmer elle aussi.
J'en connais une gang qui programme avec ChatGPT, fait que c'est comme un cercle vicieux.
Si je cherchais une job d'avenir, là, ce serait pas un métier d'usine dans une usine d'assemblage automobile. Là. Tu sais, ce serait peut-être ailleurs.
Oui, mais tu sais, mettons qu'on philosophe un peu, là, que ce soit la production automobile ou encore peu importe quelle tâche qui parle d'intelligence artificielle, voire même de robotisation. Je crois qu'il faut mettre de côté les tâches classiques. Tu sais, des tâches qui demandent beaucoup de rigidité aussi et qui sont répétitives. Il n'y a rien de fun pour un soudeur de souder 365 fois par jour la même pièce au travers de ça avec la même qualité. Moi, en tout cas, je vois rien de fun. Ah, correct, mettons, pour les premières, mais après ça, ça ne vient pas un peu redondant, toujours dans le même endroit, toujours avec la même position. Est-ce que le robot peut venir assister dans cette partie-là? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut lui montrer à mieux souder? La réponse, c'est oui. Et là, bien le déplacement. Le robot Atlas, lui, c'est quoi qu'il fait? C'est qu'il peut marcher dans l'usine, effectivement, comme un humain. Est-ce qu'il peut s'adapter à d'autres postes, d'autres choses? Aller chercher une pièce. Y a-tu rien de plus plate que dire, hey Francis, va me chercher la pièce Intel qui est au troisième étage, tout ça. Il n'y a pas une grande valeur ajoutée pour Francis au travers de tout ça, là. Francis peut s'affairer à une tâche un peu plus technologique, développante, intelligente. Donc, le robot, lui, aller chercher une pièce, contourner un obstacle, ou voire même peut-être s'adapter en temps réel à certaines tâches répétitives, ça risque d'être intéressant. Mais ça demande une logistique interne majeure. Cette logistique interne-là, c'est qui a réfléchi? Tu sais, le séquençage des pièces, le transport interne, la manipulation des composantes, l'application. Et je te dirais que ça va être intéressant de voir comment qu'on va mettre tout ça. Mais une fois que c'est bien programmé et une fois que tu as ton apprentissage principal donné à ton robot, puis ça peut se répliquer aux autres, ça risque d'être wow. Mais il va y avoir encore des zones humaines qui vont rester au travers de tout ça. Il s'agira de voir. Puis devine quoi, Marceau? Qui va entretenir ces robots-là? Ça prend du monde. Donc, que ce soit au niveau des pièces, que ce soit au niveau de la fiabilité d'un robot, que ce soit au niveau, voire même la durée de vie au travers de tout ça. Mais oui, si tu me parles de...
J'espère que tu as raison parce qu'ils vont inventer des robots qui réparent d'autres robots, là.
Ben oui, mais Marceau, les jobs sont en évolution constante.
Ben oui,
OK,
mais ça va
tu
en prendre de
sais.
moins en moins d'humains à l'intérieur d'une usine, là. Je te dis ça parce que je regardais les usines d'assemblage, là. C'est un documentaire qui a été produit il y a peut-être 4-5 ans. Puis donc, déjà là, on s'est amélioré en 4-5 ans. Et en quelques millisecondes, une soudure était faite. Puis là, ben, il faisait comme 50 soudures en 1 minute, à peu près. Il n'y a pas un humain qui est capable de travailler comme ces usines robotisées-là.
Je sais, mais qui est derrière la création du robot? Ça reste l'humain, soyons-en fiers, mais utilisons-le de manière intelligente. Mais moi, je crois qu'il y a une bonne moyenne d'emplois qui vont évoluer au travers du temps. Juste à regarder ChatGPT, juste à regarder, écoute, même pour le travail de journaliste automobile, là, puis ça, je l'ai déjà dit, là. Il y avait des grands penseurs de Montréal qui disaient jamais je vais utiliser ça, jamais je vais embarquer dans le bandwagon. Ben là, je t'annonce que l'ensemble des autres sites qui l'utilisent, qui combinent bien entendu le tout de manière intelligente, ont une vitesse incroyable et attirent beaucoup d'attrait. Si tu n'embarques pas dans le ben, le train va passer. Donc, je te le dis tout de suite, tu n'es pas obligé de changer ta personnalité, tu n'es pas obligé de faire écrire tous les articles par l'AI. Mais une correction rapide maintenant, je suis obligé de te dire que c'est très efficace. Et oui, si j'étais une correctrice de texte de journaliste automobile, d'après moi, les contrats commencent à baisser un petit peu de ce temps-ci. Est-ce que c'est mal? Probablement, mais en même temps, c'est le moment-là de réfléchir au futur et non pas d'attendre que demain nous rattrape.
T'étais au salon de l'auto de New York, est-ce que t'as vu le Jeep Recon?
Oui, monsieur, j'ai eu ça et j'ai été épaté par celui-ci. Premièrement, c'est un pari extrêmement audacieux. Pourquoi? Parce que c'est un Jeep qui est 100% électrique. C'est quand même intéressant de voir cette direction-là du côté de Jeep. Puis je dois t'avouer que sur les fiches de spécification, le Jeep Recon est assez impressionnant. Présentement, je te l'ai dit tantôt, au niveau de l'essence, ça va parce que c'est tellement cher que l'attrait populaire, il est quand même là. Cependant, la réalité est que le prix est exponentiel de ce véhicule-là. On parle d'un prix de départ qui va tourner aux alentours de 80 quelques mille dollars canadiens. C'est beau d'avoir 650 chevaux, d'avoir au-dessus là, de 400 km d'autonomie. On ne dépasse pas le 500 en passant. C'est beau d'avoir conçu un véhicule qui est hors route au travers de tout ça. Et qui avec lequel tu peux enlever les portières, enlever les vitres au travers tout ça, et que tu gardes un aspect vraiment là, rugueux, que ce soit avec des pneus de 33 pouces, des plaques de protection en dessous pour protéger la batterie, et voire même d'avoir des motorisations électriques et qu'on ajoute encore une fois ce qu'on appelle le fameux boîtier de transfert, alias le transfer case, dans lequel ça nous permet de passer différentes gammes, que ce soit la gamme base, comme on dit, le fameux lot, pour aller encore plus loin, plus lentement, cependant, en route. Et quand on parle d'un véhicule qui développe là, aux alentours de 620 livres-pieds de couple, c'est du muscle assez impressionnant. Combine tout ça aux capacités en route, que ce soit au niveau des différentiels autobloquants. Il manque un peu de garde au sol, cependant. On a quand même aussi les modes Select Terrain pour envoyer la traction là où est-ce qu'on a besoin. Puis, si tu as besoin de performance, on parlait, là, c'est ça, c'est des chiffres américains, on parlait d'un 0,60 000 à l'heure en 3,6 secondes. Donc, rajoute un 0,2, 0,3, puis on parle de 100 km/h, là. Donc, c'est massivement fort pour un véhicule comme ça. J'ai aimé le coup d'œil. Il y a quelques trucs de finition qui ne m'ont plus ou moins plu, mais tu sais, on est peut-être en véhicule de pré-production lorsqu'on l'a affiché au salon. On reste avec un intérieur classique de gros écran, encore une fois, à l'intérieur. Mais je dois avouer que de se lancer dans cette direction-là, Marceau, c'est un pari qui est très osé parce qu'on n'a pas une fiabilité incroyable. Et rappelons-nous qu'on a mis la hache dans les modèles 4x4 et qu'on était justement là, criblé de problèmes au travers de tout ça. Donc, de revenir avec une nouvelle mention 4x4 sur un Jeep Recon qui vaut un prix de fou, je m'attends à une fiabilité folle, mais présentement, je ne suis pas le seul à douter non plus de ce côté-là. Mes vidéos qui ont quand même créé pas mal d'attrait.
Ben, je comprends.
Et est-ce qu'on, encore une fois, je me rends compte qu'en lisant même les commentaires encore à l'instant, là, pendant le temps qu'on se parle, que je suis pas prêt à mettre 20$ sur la fiabilité et je ne suis pas le seul qui n'est pas prêt à le faire.
All right, je vous rappelle qu'on a le plaisir de passer la soirée avec Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile. Vous avez des questions pour lui, c'est Questions Auto, Car Question sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous allez le trouver assez facilement. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
Elle est maintenant députée indépendante de Saint-Laurent. Son nom, c'est Marois Risky. Est-ce que vous avez été témoin de ça à l'Assemblée nationale, des gens qui sont là pour se servir en politique?
Tantôt, vous m'avez dit des affaires peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre. Bon, vous comprenez. Je réponds de la France que j'adore. J'ai confiance en nos institutions. Et je suis convaincue que les gens qui ont des pouvoirs d'enquête sont capables de relever des manquements le cas échéant.
Ça, c'est la cassette. Hein?
Oui! Et je suis convaincue que si mon avocate écoute en son on va dire bravo.
Elle est contente, là.
Oui.
Quel sentiment vous habite par rapport aux gens du caucus libéral? Avez-vous, à un moment donné, été fâché après ces gens-là qui défendaient bec et ongles Pablo Rodriguez?
Non, parce qu'ils n'ont pas le niveau d'information que moi, j'ai.
Pourquoi ne pas leur avoir donné?
Je ne peux pas. T'sais, je n'aime pas dire à mon mari.
Peut-être le prendre moins personnel. Elle ne l'a pas dit à son mari.
Ben, c'est sûr. Ça.
Marceau, le matin. En semaine, 6h.
Ce segment d'émission présenté par Chapo Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapo Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapoBen.com. Planifiez votre consultation sans frais en détatouage pour enfin dire bye-bye tatou chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125$. Pour en profiter, direction cliniqueviva.com.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 72$, puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 35,99$. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 8 avril en magasin en ligne. Détail au superc.ca.
Durant le Vauxfest de Volkswagen, profitez d'offres exceptionnelles à 0% sur tous nos modèles.
Fait que le Taos, il est à
0%.
Puis le Tiguan,
0%.
Puis la Golf GTI,
ben, sont toutes à...
Ah, ben là, je t'ai eu, par exemple.
0% aussi, Pierre-Luc. Qu'est-ce que tu comprends pas dans tous nos modèles?
Non, je comprends. C'est juste que c'est vraiment des bonnes offres pour des voitures très le fun à conduire. Là.
Durant le Vauxfest, profitez de financement à 0% jusqu'à 60 mois sur le Taos et jusqu'à 24 mois sur tous les autres modèles. Faites vite, l'offre prend fin le 30 avril 2026. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
Chez Leclerc Communication, vous le savez, on est une grande famille.
Une grande famille d'étranges personnages, ouais.
Mais tellement attachants. Et c'en est de même pour notre petit nouveau.
Souhaitons la bienvenue à Alexis Perron, producteur et vidéaste qui se prend pas pour un 7-Up flat. Lorsque nous lui avons attribué son bureau, il a dit...
Je vais mettre un paravent, puis après ça, je vais mettre un enseigne qui dit « meilleur producteur ».
C'est ça que je disais.
Bienvenue Alexis. Reste confiant et pétillant comme tu es et surtout, bon succès chez nous.
Besoin de déménager rapidement? Les condos locatifs L'Allier à Lévis vous ouvrent leurs portes le 11 avril de 10h à 15h. Visitez, profitez d'offres exclusives et emménagez sans attendre. Votre nouveau nid vous attend. Détails sur votreallier.com.
Boulevard 102.1. 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. 102.1.
Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile, question auto, car question sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous allez le trouver, il est avec nous ce soir. Matt, il nous reste encore quelques minutes, cher ami. C'est-tu vrai, là, ton histoire de James Bond qui ne roulerait plus avec une Aston Martin, mais plutôt, peut-être, qui sait, un véhicule chinois?
Ben, la réponse, c'est oui. Tu sais comme moi que ben, de plus en plus de gens sont parfois sollicités pour être les porte-parole des différents véhicules. Et là, lorsqu'on pense James Bond, on pense automatiquement à M. Daniel Craig au travers de tout ça, qui est quand même une figure de pointe des derniers James Bond qu'on va avoir d'ailleurs de la misère à peut-être faire le changement hein, au travers le temps. Là, dès qu'un James Bond change, ça fait mal un petit peu. Donc, c'est BYD, encore une fois, qui est en Europe avec la Denza Z9 GT. C'est une berline électrique de luxe, puis pas n'importe laquelle. Daniel Craig devient l'ambassadeur officiel, comme je te dis. Donc, au programme, c'est un véhicule de 960 chevaux, 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, 800 km d'autonomie annoncée, j'ai hâte de voir, et une recharge ultra rapide de 10 à 70% en moins de 5 minutes. Et le message est clair quand même de BYD, on ne veut pas juste faire des voitures électriques, on veut redéfinir ce qu'est une voiture quasiment de luxe, une voiture de James Bond, qu'on peut dire. Donc, longtemps associé à Aston Martin, on va pouvoir maintenant symboliser une nouvelle ère, celle de la performance électrique et de l'innovation venue de Chine. Ça, c'est le message qui est envoyé. Et là, la question qui se pose, est-ce que vous verriez vraiment James Bond au volant d'une voiture chinoise ou encore, ça casse le mythe, comme on dit. Moi, je trouve que ça casse un petit peu. On a fait une publication de ceci, là, justement, sur le Facebook de Questions Auto. Je dois t'avouer que quand on regarde Roger Moore ou encore Daniel Craig, appuyé sur une Aston Martin de couleur silver. Là, on voit le style. La voiture électrique chinoise, j'ai un peu de misère là, présentement à la situation.
Moi aussi, cher ami. Il nous reste à peu près une minute. Quel plaisir de voir qu'il va rester encore des automobiles manuelles en 2027. On parle de la Nissan Z Nismo 2027 qui arrive.
Oui, monsieur, et ça ne sera pas la fin de ce véhicule-là. Au contraire, on met une boîte manuelle adaptée aux 420 chevaux à l'intérieur. Il va avoir aussi un ensemble de freins inspirés de la Nissan GT-R, la fameuse R35. Meilleure stabilité et confort. Et on a revu un petit peu là, le design avec quelques clins d'œil rétro au travers de tout ça. Donc, toutes ces aides-là vont profiter d'améliorations techniques pour mieux performer sur le circuit. Et des détails modernes aussi, comme la recharge sans fil à l'intérieur. Ça va débarquer dès cet été du côté du soleil. Et le retour de la Nismo manuel, est-ce que ça vous fait rêver autant que nous? Ben c'est la question. Moi, la réponse, c'est oui. Au même titre que Toyota relance la Celica, espérons un retour gagnant en rallye aussi avec cette voiture-là mythique.
Est-ce que tu sais ce qu'on dit à Montréal et à Québec quand tu as un véhicule de luxe et tu ne veux pas te le faire voler? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on dit?
Je m'attends à une blague, donc je vais répondre non.
Tu dois acheter un véhicule manuel. C'est clair et net que tu ne te le feras pas voler parce que la conduite manuelle est de plus en plus rare et elle n'est plus enseignée dans les écoles de conduite, encore moins avec les gens qui veulent voler des véhicules qui n'ont jamais conduit de char de leur vie.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on ramène les jeunes, ces tracteurs d'agriculture bien, bien jeunes pour qu'ils réapprennent ça et non seulement qu'on ne perde pas cette expertise-là au travers du temps.
Mathieu Thomasin, ça a été un plaisir pour les gens qui veulent en savoir plus sur Questions Auto et Car Question. On vous trouve à quel endroit?
Ben, on nous trouve directement sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok aussi. TikTok, je vous dis tout de suite, on vous réserve des fois un peu un style Watatatar là, qui sort des sentiers battus avec bien de l'humour puis surtout des petits commentaires punchy. Là. On ne veut pas faire pleurer personne, mais on veut vous faire réagir.
En vous souhaitant une belle soirée, monsieur, puis on se reparle dans les prochaines semaines.
Au plaisir.
Salutations tout le monde. À demain. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com.
Le mot atypique désigne l'inhabituel et le caractère de ce qui est différent. À l'hôtel Atypique, vivez une expérience hors norme, à bon prix, en plein cœur du Vieux-Québec. Le compromis parfait entre un hôtel traditionnel et une auberge de jeunesse. Réservation au atypiquehotel.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Boulevard. Si t'as déjà gamé, tu sais comment peser pause puis play. C'est de même que ça marche la web radio de Boulevard au blvd.fm.
Boulevard 102.1, it's in the game.
Chez Tyzone, ton destin est entre tes mains. Avec nos